Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est Henriette Walter que vous retrouvez dans cette émission puisque c'est elle qui anime avec sa compétence de linguiste cette série d'une vingtaine d'émissions. Henriette Walter est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne et cette série, elle l'a établie en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Dans la première émission, elle a défini ce qu'est une langue, un dialecte, un patois. Dans la deuxième émission, elle a précisé les grandes aires géolinguistiques des langues régionales françaises. Et dans les 18 émissions qui suivent, elle a passé en revue chacune des langues régionales françaises. Nous abordons dans cette émission la huitième langue, le corse. Mais avant, je crois qu'Henriette va nous donner quelques précisions sur les langues romanes de France, puisque le corse appartient aux langues romanes. Alors, les langues romanes, Henriette, bonjour, vous avez
bonjour.
La parole.
Oui, alors, bien sûr, jusqu'à présent, nous avons parlé de la périphérie, là où il y a des langues qui ne sont pas issues du latin. Tout le reste du territoire est occupé par les langues issues du latin. Et ce latin est arrivé en deux vagues. La première vague vers moins 120 pour établir la province romaine, la première province. Et la deuxième vague, c'est avec Jules César que finalement l'ensemble de la Gaule a été latinisé. Si je vais commencer par le corse, c'est surtout parce que le latin est arrivé en premier lieu en Corse, avant même d'arriver sur le continent, puisque c'est dès moins 259 que les Romains se sont installés en Corse, c'est-à-dire exactement à la même époque que pour le Sarde. Donc aussi bien le Corse que le Sarde ont gardé des traits du latin extrêmement anciens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu l'évolution ultérieure.
Voilà. Alors, quelles sont les différentes langues romanes?
Alors, on commence par voir qu'il y a une grande séparation qui est entre hoc et oïl. Entre les deux, il y a le franco-provençal. Nous y reviendrons. Mais il faut mettre à part le corse et le catalan. Donc, je vais commencer par parler du corse. Alors, comment voit-on que le corse est une ancienne langue, disons, hein? Elle est intéressante pour ça parce qu'elle est vraiment la plus ancienne. Eh bien, c'est parce que le corse a gardé une voyelle finale inaccentuée, qui était la voyelle ou du latin, et qui est restée ou en corse. Tandis qu'en italien, par exemple, c'est devenu o. Exemple, locu pour dire le lieu, et italien, c'est luogo avec un o. Exemple, muro pour le mur, et muro en italien. Donc, on a cette dernière voyelle, ce ou final, qui n'existe pas dans les autres langues romanes.
Et qui existe dans le corse.
Et qui existe dans le corse et qui est amusant. Intéressant, en tout cas, ça permet de le caractériser, c'est ça. Autre voyelle, des voyelles qui ont été plutôt accentuées, la voyelle E et O, qui se sont diphtonguées en italien, par exemple, et n'ont pas été en corse. Par exemple, petra pour la pierre, pietra en italien. Donc diphtonguée, core pour le cœur en corse, et cuore en italien. Bonu, donc on retrouve le ou de tout à l'heure, mais on a en plus une différence pour cette voyelle accentuée qui est devenue buono en italien. Donc là, c'est intéressant de voir cette, j'allais dire l'influence italienne, non, pas encore. L'influence italienne
là,
va venir un petit peu
plus latine.
Tard. Et il faut dire aussi que cette île a été occupée précédemment par des gens qui ne parlaient pas latin. Donc on a aussi des traits de pré-latin, disons,
d'invasion.
Des aires d'invasion précédentes qu'on connaît mal. Par exemple, on va prendre le mot pour le trou, par exemple, c'est tafone. Pour le mouflon, c'est mufrone. Et puis, le thym se dit herba barona. Alors, c'est drôle parce qu'on voit que c'est une baronne, le thym. Je ne sais pas très bien quelle est l'étymologie, mais enfin, c'est intéressant. Donc, après l'invasion romaine, il y a eu d'autres invasions, parce que l'île a été très convoitée par beaucoup de populations, en particulier, bien sûr, les invasions germaniques, et puis aussi les invasions byzantines. Mais toutes ces invasions n'ont pas laissé suffisamment de traces, si vous voulez. En ce qui concerne les invasions germaniques, le germanique est surtout venu par l'intermédiaire du toscan. Et donc, on va pouvoir parler du toscan maintenant parce que les Pisans ont occupé l'île de Corse à partir du 9e siècle. Et cette occupation s'est maintenue jusqu'à l'arrivée des Génois. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs siècles où le toscan finalement, a beaucoup influencé cette langue qui était un peu archaïque, mais quand même qui a eu cette nouvelle influence d'une langue venue d'Italie. Et donc, on a des mots comme ça qui viennent du germanique par l'intermédiaire du toscan. Alors, on a une trace, encore une fois, dans les toponymes. Par exemple, la forêt de Valduniello. Valdu, c'est quoi ? C'est Wald, du germanique.
De l'allemand, oui.
Donc, c'est la forêt. Mais on dit forêt. On dit forêt du Wald. C'est-à-dire, autrement dit, forêt de forêt. Un peu ce qu'on avait vu pour le basque avec le Val d'Aran,
voilà,
où c'est Val de Val, pour être sûr qu'on comprend,
voilà.
qu'on comprend bien ce qu'il en est. Voilà, c'est ça. Bon, on a bien sûr, ce toscan a été très très important. Lorsque les Génois sont arrivés, on s'attend à ce que les Génois aient laissé une grosse trace sur le Corse, mais en fait, les Génois eux-mêmes parlaient le toscan à ce moment-là. Donc, c'est encore le toscan qui est arrivé.
Voilà.
Car, comme vous savez, le toscan a eu une influence capitale sur l'ensemble des dialectes italiens très tôt. Très très tôt, et bien sûr, on sait
je
que
je ne le sais pas, mais je l'Italien... l'apprends grâce à vous.
Voilà, voilà.
De toute façon, et ce sont toutes des langues romanes.
Romanes.
Langues, oui.
Mais si vous voulez, quand on veut parler de l'italien, il faut dire toscan, en fait. Parce que c'est le dialecte toscan qui a donné naissance à cette langue littéraire grâce à l'importance de trois grands écrivains, Dante, Pétrarque et Boccace.
Il y avait aussi le florentin. Est-ce que le florentin,
c'est
c'était
ça,
la même
exactement.
C'était aussi une autre
ça.
Langue
ils sont... ben, c'est-à-dire que le florentin, c'est du toscan.
C'est du toscan aussi.
Et justement, ces trois écrivains sont tous trois nés à Florence.
Florence oui,
donc voilà, voilà pourquoi cette importance, parce que aussi leur littérature était quelque chose d'extrêmement important. Voilà.
Retrouvons maintenant Clément Moutier en compagnie d'Achille Franceschi, professeur de Corse à Paris, pour l'association Cultura Viva.
Alors, monsieur Franceschi, vous travaillez justement pour le développement de cette langue corse.
Oui, en effet, je travaille depuis disons plus de 20 ans pour faire vivre cette langue corse. C'est une langue, bien sûr, que j'ai héritée de par mes parents, puisque je suis, comme on dit, un locuteur natif. Hein, donc, c'est une langue maternelle. Le français, je l'ai acquis à l'école de la République. Donc, cette langue, je vous dis, cette langue maternelle, ce corse, je continue donc à le transmettre. Je continue à dispenser des cours de langue corse auprès des adultes et dans le cadre, donc, de Cultura Viva. Donc, ça tourne autour d'une vingtaine ou une quinzaine, ça dépend des années, de personnes qui sont désireuses d'acquérir cette langue et de la faire vivre, bien sûr.
Est-ce que vous remarquez que les jeunes générations éprouvent un intérêt pour cette langue corse ?
Oui, enfin, ils l'éprouvent, oui, à travers le chant. Si vous voulez, le chant corse, en l'occurrence, attire beaucoup de jeunes. Et donc, par là même, il y a quand même une certaine volonté, même si ça s'estompe de plus en plus, il y a une certaine volonté à la faire vivre. Maintenant, bon, les moyens qui sont mis... je parle de la région Corse, qui sont mis en place sont corrects, mais bon, la fréquentation n'est pas à la hauteur de ce que l'on escompterait, voilà, ce que l'on désirerait. Pour ce qui est du continent, c'est-à-dire des gens, entre guillemets, de la diaspora, comme on le dit un petit peu, l'engouement est plus fort, quand même, plus fort que ceux qui sont là-bas. Même si aussi, quand même, il y a plein de cours qui sont dispensés pour les jeunes là-bas, dans le cadre de l'éducation nationale. Et donc, on essaye, et puis les professeurs qui sont sur place essayent vraiment de lutter pour la survivance de cette langue, voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, pour nous imprégner de cette langue, je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui en Corse ?
Oui, so felice di incubo e qui in Parigi, hein, voilà.
Et je crois que vous aviez un petit texte à nous faire découvrir.
Oui, en effet, j'ai une poésie d'un des grands poètes et défenseurs depuis une cinquantaine d'années de la langue corse, qui s'appelle Jacques Fusine, hein, Giacomo Fusine, comme on dit. Hein. Il a fait une poésie qui date un petit peu déjà, hein, qu'il a intitulée « As bonurada », c'est-à-dire « à l'aube », à la bonne heure, comment disons, à la bonne heure, voilà.
On vous écoute alors.
« As bonurada, awalle se croscia di wazza galada, a notte se lascia da qui e culla due ombre, sotto i gastoni in sunulidi. A macchion parla anco e o cielo se grigio. A mio stradella ciotta e passa longa o fiume i giuloni e leva ogni vistiga e muschi zidellini. Una dintenna bersa trinnega o galchittirlu sotto a viletta zezza e bancia in faccia un'aria che parturisce vole. constamment mineo aspitausole. Voilà.
Eh bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'évoque ce poème ?
Ce poème, c'est un petit peu la nature, ça évoque la vie, si vous voulez. C'est une personnalisation de la nature, hein, sur le lever du soleil, sur l'éveil de la nature, et donc l'éveil un petit peu, en quelque sorte, me semble-t-il, ce qu'a voulu dire le poète, l'éveil un petit peu de la conscience d'une véritable culture, d'une véritable identité corse, quoi, en quelque sorte. Bon. C'est sous-entendu, mais c'est ça un petit peu, hein, avec bien sûr des allusions à la campagne, au maquis, donc au châtaignier, bien sûr, ce sont tous des symboles de l'identité corse.
D'accord, ben merci beaucoup Monsieur Franceschi. On va se dire au revoir en Corse.
Oui, je vais vous dire au revoir à Bed et Gia. Merci beaucoup.
Après cette petite balade en poésie dans le paysage corse, Henriette Walter, vous allez nous parler de l'influence du français dans l'écriture corse.
Alors lorsqu'au XIXe siècle, on a essayé d'écrire le corse, c'est tout naturellement les principes de l'orthographe italienne qui ont été adoptés, et non pas ceux de l'orthographe française. C'est plus tard que le français a eu une influence sur le corse. L'annexion par la France date de 1769, c'est-à-dire finalement la fin du XVIIIe siècle, et c'est très tard finalement que le français s'est substitué à l'italien. Le français est devenu ce qu'on a appelé la langue du pain, alors que le corse restait la langue du cœur. Vous voyez, c'est très poétique cette chose-là. Et donc, on peut trouver des mots comme des verbes comme amusarsi, qui veut dire s'amuser. C'est le mot français, hein, apparelio pour l'appareil, etc. Si on veut distinguer entre les différentes sortes de Corse, on peut dire qu'au nord, il y a un groupe de variétés proches du toscan. Au sud, des usages qui sont au contraire apparentés aux Sardes, ou même aux Siciliens, ou au sud de l'Italie. Donc vous voyez, tout ça, c'est coloré d'italien. Et c'est dans le sud qu'on trouve une des caractéristiques du Corse, qui est ce « de ». Pour dire le cheval, ils disent « il cavallo ». Cavallo, et non pas cavallo.
Donc, c'est deux L par deux D,
mais c'est pas n'importe quel D. Vous avez remarqué que c'était un drôle de D avec la langue qui se relève de telle sorte que le dos de la langue touche le palais, et donc ça n'est pas de, c'est pas cavallo, non, c'est cavallo.
Et cette consonne. Vous parlez le corse couramment,
n'est-ce pas ?
Oui,
moi j'avais été très très frappée par une boutique de lingerie, de buanderie disons, où la dame employait ces consonnes-là. Je me suis dit, mais d'où vient-elle ? Eh bien c'était ça. Alors cette consonne, quand même je vais vous dire un mot savant, parce que c'est amusant, c'est pas seulement amusant, c'est aussi un mot très très savant, on appelle ces consonnes des cacuminales. Ou des rétroflexes. Alors rétroflexes, c'est facile à retenir, mais cacuminal, c'est peut-être plus difficile.
On voit là l'influence des linguistes qui ont quand même l'art d'inventer des mots compliqués.
Ouais. C'est oui, mais ça ne veut pas dire n'importe quoi, vous comprenez ?
Oui, hein, oui, admettre ça.
Vous voyez, normalement en français, notre D, il est dental. Hein, c'est facile, c'est contre la dent. Mais là, la langue en plus est retournée, donc il faut bien expliquer qu'elle se retourne. Sans ça, on ne va pas faire le même
c'est
son.
C'est pour ça qu'elle est appelée rétroflexe.
Rétroflexe,
bon, j'ai
voilà.
Compris.
Voilà. Alors, une chose pour le vocabulaire, il y a beaucoup, beaucoup de mots différents pour les mêmes choses. Et il y avait une chose qui m'avait vraiment frappée, c'est les 24 noms de la coccinelle. Et ces noms sont toujours très, très jolis. Encore un peu d'hypocoristique, peut-être, mais pas tout à fait. Car on a Madonnina, la petite Madone. On a Sposatella, qui est la petite mariée. Ou bien Santa Lucia. Ou bien même la petite cuillère en or. Ce qui est vraiment quelque chose de magnifique. Alors maintenant, un mot sur les patronymes. Parce que je voudrais parler de notre écrivain célèbre, Paul Valéry, d'origine corse. Son nom se termine par un Y. Or, en italien, c'est un I.
I, oui.
Et c'est un I. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, ce I final ne s'est pas écrit I, mais J, pour montrer que c'était II, en fait. Parce qu'en fait, c'était le génitif ou le pluriel d'un mot qui était en ous. Hein. Et donc, cette terminaison se terminait par J. Et puis, quand c'est passé à la France, eh bien, ce J, on n'avait jamais de nom terminé par J en français. On l'a terminé par un Y. Voilà pourquoi Valéry s'écrit avec un Y.
On saura tout.
Voilà. Bon, alors le corse, bien sûr, je l'ai dit, se rapproche de l'italien. Et maintenant, la prochaine fois, on va parler d'une langue qui se rapproche plutôt de l'espagnol.
Merci Henriette Walter de nous avoir fait partager quelques notions sur la langue de l'île de Beauté. Je rappelle que cette série est publiée en partenariat avec la DGLFLF, Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, que vous, Henriette Walter, avez publié de nombreux ouvrages de linguistique, certains très savants et d'autres plus accessibles au public. Alors, dans les plus accessibles, on peut citer celui qui est le plus proche de notre sujet, « Aventures et mésaventures des langues de France » aux éditions du Temps. Rejoignons maintenant Clément Moutier pour découvrir quelques extraits de chansons en langue corse.
C'est en musique maintenant que Canal Academy, en partenariat avec le Hall de la chanson, vous propose de découvrir la langue corse. Dans les années 1930, les chants traditionnels corses, relativement méconnus, se résumaient à quelques chants d'amour accompagnés de mandolines. C'est à cette période que va être enregistré le premier disque de chansons corses, disque que l'on doit à un Ajaxien des plus célèbres, Tino Rossi. Voici un extrait de sa chanson « O Chucharella ».
Oh, Chucharella, non sei quanto t'adoro. Letto è bellezze, letto è cullani noru, ciucciarelli in zuccarata, quante lo...
Retrouvons maintenant un groupe spécialiste du chant polyphonique, I. Muvrini, considéré comme le porte-parole d'une langue corse plutôt tolérante et religieuse. Dans l'extrait suivant, vous pourrez les entendre interpréter Barbara Fortuna. Un extrait maintenant d'une composition de Jean-Claude Acquaviva, Nentara Nenchelu. Enfin, le chanteur Jean-Claude Acquaviva, leader du groupe A Filetta, nous livre sa vision du métissage musical.
Chez nous, on a un rapport, je dirais, à la langue et au chant qui relève de la passion. Et donc, quelquefois, on est un peu... Peut-être on a tendance à exagérer les choses, on a peut-être tendance à être un peu maladroit. Je vais vous dire, moi, ce que j'aime quand quelqu'un vient écouter ce que l'on a à dire et qu'il écoute ce qu'on dit et ce qu'on chante, moi, ce que j'aime, c'est qu'il ressorte en disant vraiment ce qu'il retient de ce que j'ai dit ou chanté ou de la façon dont je l'ai fait. Ça n'est ni celui qui rend hommage à ce petit peuple qui a résisté, les poncifs sur l'île toujours conquise, jamais soumise, etc. Et puis, ça n'est surtout pas, je dirais, ceux qui nous considèrent comme des animaux curieux, je dirais, qui se battent becs et ongles pour quelque chose qui n'a plus de sens.
Canal Academy vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, elle prendra la direction du Roussillon, dans les départements de l'Isère, pour découvrir la langue catalane. Canal Academy vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la chanson www.lehall.com.